Chapitre 13. Autrefois. Figurez-vous dans ce temps un pauvre vanier avec sa femme et six enfants, sans un liard, sans un pouce de terre, sans une chèvre, sans une poule, enfin sans autre ressource que son travail pour vivre. Et pas d'espoir ni pour lui ni pour ses enfants d'obtenir un meilleur sort, parce que c'était l'ordre, parce que les uns venaient au monde noble et devaient tout avoir, et que les autres naissaient vilains et devaient rester misérables dans tous les siècles. Qu'on se figure cet état, les grands jours de jeûne, les nuits d'hiver, sans feu ni couverture, la peur des collecteurs, des sergents, des gardes forestiers, des garnisaires. Eh bien, malgré tout, au printemps, quand le soleil revenait après un long hiver, qu'il entrait dans la pauvre baraque, qu'il éclairait les toiles d'araignée entre les poutres, le petit âtre dans le coin à gauche, le pied de l'échelle à droite, l'air battu de notre hutte, et que la chaleur, la bonne chaleur nous réchauffait, que le grillon se remettait à chanter, les bois à reverdir, malgré tout, nous étions heureux de vivre, de nous étendre devant la porte, nos petits pieds nus dans les mains, de rire, de siffler, de regarder le ciel et de nous rouler dans la poussière. Et quand nous voyions le père sortir du bois, son grand fagot de genêt vert ou de brindille de bouleau sur l'épaule, le manche de la cognée dessous, les cheveux pendant sur la figure, et qu'il se mettait à sourire en nous découvrant de loin, tous nous courions à sa rencontre. Alors, il dressait le fagot une minute pour embrasser les plus petits. Sa figure, ses yeux bleus, son nez un peu fendu par le bout, ses grosses lèvres s'éclairaient. Il paraissait bien heureux. Qu'il était bon, qu'il nous aimait. Et la mère dont, la pauvre femme, déjà grise et ridée à 40 ans, et pourtant toujours courageuse, toujours au champ à piocher la terre des autres pour nourrir la couvée, payer les tailles, les impositions, les redevances de toutes sortes. Quel courage et quelle misère de travailler toujours, sans autre espoir que les récompenses de la vie éternelle. Nous étions 4 garçons et 2 filles. Nicolas, Lisbeth, moi, Claude, Mathurine et le petit Étienne. Un pauvre être contrefait, pâle, chétif, que les gens des baraques appelaient le petit canard, parce qu'il marchait en se balançant sur ses pauvres jambes estropiées. Tous les autres se portaient bien. La mère disait parfois, en nous regardant, Nicolas, Claude et moi, « Ne te chagrine pas tant, Jean-Pierre. Sur 3, il faudra bien qu'un gagne à la milice. Alors nous le vendrons, et nous aurons aussi de l'argent. Il faut être bien malheureux pour avoir des idées pareilles. » Le père ne répondait rien, et nous autres nous trouvions tout naturel d'être vendus. Nous croyions appartenir à nos pères et mères comme une espèce de bétail. La grande misère vous empêche de voir les choses comme elles sont. Avant la Révolution, excepté les nobles et les bourgeois, tous les pères de famille regardaient leurs enfants comme leurs biens. C'est ce qu'on trouve si beau, c'est ce qui fait dire que le respect des pères et mères était plus grand. Par bonheur pour nous, notre père avait bon cœur. Et souvent le pauvre homme pleurait, lorsqu'au milieu de la grande disette en hiver, il était forcé de nous envoyer mendier, comme tout le monde. Il ne voulait jamais laisser sortir dans la neige le petit Étienne. Moi, je n'allais pas mendier longtemps non plus. C'est à peine si je me rappelle être sorti sur la route de Middlebrunn et des 4 vents, 2 ou 3 fois. Et bien jeune, car à 8 ans, mon parrain Jean Leroux, aubergiste et forgeron à l'autre bout du village, m'avait déjà pris pour garder son bétail, et je ne retournais plus dans notre baraque que le soir pour dormir. Une fois chez le parrain, je n'étais plus à plaindre. J'avais ma paire de souliers tous les ans et la nourriture. Combien d'autres auraient été heureux d'en avoir autant? Et je le savais, je ne négligeais rien pour contenter maître Jean, madame Catherine, sa femme, et jusqu'au compagnon Valentin, jusqu'à la servante Nicole. Je me tenais bien avec tout le monde. Je courais quand on m'appelait, soit pour tirer le soufflet à la forge, soit pour grimper au fenil, jeter le foin aux bêtes. Je n'aurais pas même voulu mécontenter le chat de la maison, car d'être assis au bout d'une bonne table, en face d'une bonne soupe à la farine, d'un plat de choux garni de lard les dimanches, de manger du bon pain de seigle autant qu'on veut, ou d'avoir le nez dans une écuelle de fèves, avec un peu de sel que la mère épargne, et de compter ses cuillerées, cela fait une grande différence. Quand on est bien, il faut s'y tenir. Aussi, tous les matins, à 4 heures en été, à 5 en hiver, lorsque les gens de l'auberge dormaient encore et que les bêtes ruminaient à l'écurie, j'arrivais déjà devant la porte où je donnais 2 petits coups. Aussitôt, la servante s'éveillait. Elle se levait et m'ouvrait dans la nuit. J'allais remuer les cendres à la cuisine pour trouver une braise et j'allumais la lanterne. Ensuite, pendant que Nicole s'occupait de traire les vaches, moi je courais au grenier chercher le foin et l'avoine et je donnais leur picotin aux chevaux des rouliers et des marchands de grains qui couchaient à l'auberge la veille des marchés. Ils descendaient, ils regardaient et trouvaient tout en ordre. Après cela, je les aidais encore à tirer les charrettes du hangar, à passer la bride, à serrer les boucles. Et puis, quand ils partaient et qu'ils se mettaient à crier « Hu, Fox ! Hu, Ripple !» mon petit bonnet de laine à la main, je leur souhaitais le bonjour. Ces gros rouliers, ces marchands de farine ne me répondaient pas seulement, mais ils étaient contents. Ils ne trouvaient rien à redire au service. Voilà le principal. Et Nicole, une fois rentrée dans la cuisine, me donnait une écuelle de lait caillé que je mangeais de bon appétit. Elle me donnait encore un gros morceau de pain pour aller au pâturage, 2 ou 3 bons oignons, quelquefois un œuf dur ou bien un peu de beurre. Je fourrais tout cela dans mon sac et je rentrais à l'écurie, la bretelle sur l'épaule, en claquant du fouet. Les bêtes défilaient l'une après l'autre. Je les caressais et nous descendions sur une seule file au vallon des roches, moi derrière, courant comme un bienheureux. Les gens de Falsbourg, qui vont se baigner au vallon de la Zorn, connaissent ces masses de rochers entassés à perte de vue, les maigres bruyères qui poussent dans leurs crevasses, et le filet d'eau plein de cressons des fontaines en bas qui se dessèche aussitôt que les papillons blancs de juin arrivent. C'est là que j'allais, car nous avions droit de vaines pâtures sur les terres de la ville. Et seulement à la fin d'août, après la grande sève, quand les jeunes pousses avaient pris du bois et que les bêtes ne pouvaient plus les brouter, nous entrions dans la forêt. En attendant, il fallait vivre au grand soleil. Le hardier de Falsbourg n'amenait que des pourceaux qui, pendant les chaleurs de midi, faisaient leurs trous dans le sable et se vautraient les uns contre les autres, comme des poules dans un paillet. Ils dormaient, leurs grandes oreilles roses sur les yeux. On aurait marché dessus sans les faire bouger. Mais nos chèvres, à nous autres des baraques, grimpaient jusque dans les nuages. Il fallait courir, siffler, envoyer les chiens. Et ces coquines de bêtes, plus on criait, plus elles montaient. Les garçons des autres villages venaient aussi, l'un avec sa vieille rosse aveugle, l'autre avec sa vache pelée, et presque tous avec rien pour claquer du fouet, siffler ou courir déterrer des navets, des raves, des carottes à droite et à gauche dans les champs. Quand le Bangard les attrapait, on les promenait en ville, un collier d'ortie autour du cou. Mais cela leur était bien égal. La seule chose qui leur faisait beaucoup, c'était à la seconde ou troisième fois, selon l'âge, d'être fouettés sur la place un jour de marché. Le rifleur leur écorchait tout le dos avec son air de bœuf, et s'ils recommençaient, on les envoyait en prison. Combien de fois, en écoutant des gens riches crier contre la Révolution, je me suis rappelé tout à coup que leur grand-mère ou leur grand-père avaient été riflés au bon vieux temps. Malgré moi, j'étais forcé de rire. On trouve de drôles de choses dans ce monde. Enfin, il faut pourtant le dire, c'est aussi ce temps que je regrette. Pas à cause du rifleur et des nobles, mais parce que j'étais jeune. Mon grand frère Nicolas et les autres, Claude, Lisbeth, Mathurine, arrivaient. Ils me prenaient mon sac et je criais. Nous nous disputions. Mais s'il m'avait tout pris, Maître Jean aurait été les trouver le soir à la baraque. Il s'en doutait et me laissait ma bonne part en m'appelant leur chanoine. Après cela, notre grand Nicolas me défendait. Tous les villages dans ce temps, Hultenhausen, Lützelbourg, les 80, Mittelbrunn, les baraques d'en haut et d'en bas, se battaient à coups de pierres et de bâtons. et notre grand Nicolas, son morceau de tricorne sur la nuque, son vieil habit de soldat tout déchiré, boutonné jusque sur les cuisses, sa grande trique et ses pieds nus, marchait à la tête des baraquins comme un chef de sauvage. Il criait si fort « En avant !» qu'on l'entendait jusque sur la côte de Dan. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer, car à chaque instant il disait « Le premier qui touche à Michel, gare !» Seulement, il me prenait mes oignons, et cela m'ennuyait. On avait aussi l'habitude de faire battre les bêtes ensemble, et lorsqu'elles se poussaient corne contre corne jusqu'à se déhancher, Nicolas disait en riant « La grande rousse va bousculer l'autre. Non, maintenant l'autre l'attaque par-dessous. Hardi, hardi !» Plus d'une fois, elles attrapaient des entorses ou laissaient une corne sur le champ de bataille. Vers le soir, on s'asseyait, le dos contre un rocher, à l'ombre. On regardait la nuit venir, on écoutait l'air bourdonner. Et tout au loin, dans le ruisseau, les grenouilles commençaient leur chanson. C'était le moment de rentrer. Nicolas cornait, les échos répondaient de toutes les roches. Les bêtes se réunissaient et remontaient en ligne aux baraques, dans un nuage de poussière. Je faisais rentrer les nôtres à l'étable, je garnissais les râteliers et je soupais avec Maître Jean, Dame Catherine et Nicole. En été, quand on travaillait à la forge, je tirais le soufflet jusqu'à 10 heures, et puis je retournais coucher à la baraque de mon père, tout au bout du village.